Kirby Brink.
Je voudrais revenir à la planétologie comparée, parce que c'est quand même le fil conducteur aussi de votre livre. Hein. En vous lisant, on se rend compte d'une façon extraordinaire de l'importance des conditions initiales. Et vous pointez très rapidement dans le début du livre la dissymétrie qui est celle finalement entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Vous dites la première observation, c'est que les plaines du nord sont globalement plus basses de plusieurs kilomètres que les terrains de l'hémisphère sud. Et l'origine de cette dichotomie martienne à grande échelle reste une énigme, mais une énigme primordiale, une énigme des origines.
Absolument. C'est pas forcément le plus intéressant des affaires martiennes, mais c'est ce qui vient tout de suite en évidence. Il y a un hémisphère beaucoup plus bas. Et quand on dit beaucoup plus bas, c'est des kilomètres plus bas que l'autre, à ce point que les gens se sont dit, s'il y a eu un océan, c'était forcément là, puis ils sont plus bas. Et le fameux océan martien que les gens ont voulu voir, et là où les gens se sont posés, c'est essentiellement dans ces terrains de basse altitude. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas exclu que ces terrains de basse altitude aient été formés comme tels très tôt dans l'histoire de Mars et résultent d'un processus qui était assez fréquent en fait et qui a eu beaucoup d'importance après, qui est un impact majeur que Mars aurait pu subir, exactement comme la Terre a subi un impact majeur à l'origine de laquelle a été la formation de la Lune. On comprend maintenant que cette première phase de bombardement, et à nouveau, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que le bombardement était inhérent à la croissance planétaire, parce que les planètes se sont formées par croissance, qui veut dire que des petits grains se sont projetés les uns contre les autres à des vitesses telles qu'ils ont pu grossir, mais pour que la collision résulte en une accrétion plutôt qu'une destruction, c'est simplement une question de vitesse relative. Et donc, parce qu'il y avait des objets qui étaient à faible vitesse les uns contre les autres, eh bien, ça a donné des objets plus gros, mais quand de temps en temps il y avait des objets animés d'une vitesse plus grande, ça a donné énormément d'impact destructeur. Si bien que tous les objets qui ont grossi, en même temps qu'ils grossissaient, ils étaient bombardés. Et il se trouve qu'à la fin de cette première phase, qui a duré quelques dizaines de millions d'années, tous les objets en train de devenir des planètes, comme Mars, la Terre, Vénus, ont reçu quelques objets de très grande dimension. On pense d'ailleurs que certains de ces objets ont pu disparaître dans ces collisions-là. La Terre a reçu un objet de la taille de ce qu'est Mars aujourd'hui, et ça a fait quelque chose de colossal. Vous savez que l'essentiel de l'atmosphère a disparu, et de cet impact qui a donné naissance donc à la Lune, puisque de cet impact a donné un disque à l'intérieur duquel la Lune a pu se former, l'essentiel des constituants volatiles est passé dans ce disque, et vous savez qu'en particulier toute l'eau qui était arrivée par accrétion se retrouvait dans ce disque. Parce que la Terre était d'assez grande masse, l'eau a pu retomber sur la Terre, mais ce qui était assez extraordinaire, c'est que l'impact a mis toute la Terre en fusion. La Terre était à plusieurs milliers de degrés. Et parce que dans ce disque provenant de l'impact, la Lune s'est formée, il y a eu des effets de marée considérables. La Lune était tout près, elle était à 4-5 rayons terrestres au maximum. Et donc l'existence de la Lune a maintenu en fait, par les effets de marée, une température extrêmement élevée. Et bien cette température a permis à ce que l'eau dans le disque, en retombant dans le magma, puisque c'était un magma, a pu pénétrer, comme il y avait des grandes vagues, si vous voulez, dans le magma lui-même, qui ont pu incorporer de l'eau dedans. Et c'est comme ça que le magma est devenu suffisamment aqueux, hydraté, pour qu'en se refroidissant, parce qu'un magma hydraté est beaucoup plus fluide, la tectonique des plaques ait pu voir le jour. En fait, on doit probablement l'existence d'une tectonique des plaques qui a été ensuite à l'origine de tout ce que l'on connaît aujourd'hui, en particulier l'existence du vivant, au fait que la Terre a été maintenue dans un degré de fusion très importante par cet impact-là et que l'eau retenue par la Terre a pu retomber dans un magma très violent. Eh bien, sur Mars aussi, on a eu des impacts comme ça, mais d'une géométrie différente, d'une ampleur différente, si bien que Mars n'a peut-être pas été mis entièrement en fusion, et la dichotomie est probablement le résultat d'un tel impact. Et ce que l'on pense, par exemple, aujourd'hui, c'est que dans ce disque-là, l'essentiel des constituants volatiles aussi ont disparu, mais parce que Mars était de plus faible masse, l'essentiel n'a pas été réaccrété, c'est pour ça que Mars a perdu l'essentiel de son atmosphère probablement par cet impact-là, et que les débris rocheux qui se sont fabriqués n'ont donné que de toutes petites lunes, et c'est pour ça que Phobos est de petite dimension, mais peut-être que Phobos et Deimos sont des résultats aussi de cet impact majeur. Et le fait que Phobos soit de petite dimension par rapport à la Lune, qui est de grande dimension par rapport à la Terre, a eu beaucoup d'effets aussi sur l'évolution. Vous savez qu'on doit à la Lune d'avoir stabilisé notre obliquité, c'est-à-dire l'angle de 23 degrés autour duquel la Terre tourne dans sa révolution diurne, n'évolue que très peu, de quelques degrés au plus, au cours des siècles et des millénaires, des millions d'années à vrai dire. C'est grâce à ça qu'on a des climats pérennes, et probablement c'est un des ingrédients majeurs pour que la vie puisse peut-être pas émerger, mais en tout cas se maintenir, puisque si on imagine que si les pôles basculaient dans le plan de l'écliptique, ça ferait des grands changements climatiques. Eh bien, sur Mars, on sait que parce que Phobos n'a pas cette capacité de stabilisation, il y a une variation continuelle de l'ubiquité. Et les pôles, en permanence, se sont vus dépossédés de leur glace, qui se sont recondensés ailleurs. Et on voit aujourd'hui la variation séculaire de cette ubiquité par le fait que des glaces ont pu se reposer ailleurs et qu'il y a eu des changements climatiques très importants.
Donc aujourd'hui, Mars est une planète morte, en tout cas... comment dire, géologiquement perdu, qui a perdu son moteur, avec une atmosphère qui a été soufflée, mais qui est, je dirais, conservée comme au frigo dans une archive extraordinaire de plusieurs milliards d'années. Vous pointez, en regardant ce monde mort, mais avec une histoire qui est extraordinaire, finalement, en quoi la situation de la Terre a changé, alors qu'on l'a pensé tout à fait banal, aujourd'hui, elle devient de plus en plus exceptionnelle au fur et à mesure qu'on la compare avec les mondes qui l'entourent et peut-être même avec finalement les exotères ou les exoplanètes que l'on commence à découvrir.
C'est vrai que plus on comprend ce qui s'est passé pour rendre compte de ce que l'on observe avec Mars, Mercure, Vénus, plus on s'aperçoit que les conditions qui ont donné naissance à la diversité de ce que l'on voit sur Terre résultent d'un ensemble de processus, de très faible probabilité du reste, qui sont passés sur Terre, qui ne sont pas passés ailleurs. On commence juste à effectivement mettre à nu les processus responsables de la diversité planétaire et de la spécificité de la Terre. À nouveau, l'existence en particulier d'océans qui sont restés stables sur des milliards d'années, qui peut paraître banal puisqu'on a ça sur Terre, on comprend qu'en fait il faut des conditions très particulières pour arriver à les maintenir. L'eau, qui est un ingrédient extraordinairement présent dans l'univers, où qu'on regarde, près des étoiles, loin des étoiles, il y a de l'eau, mais jamais sous forme liquide, c'est toujours de la vapeur ou de la glace. Pour que ça se maintienne à l'état liquide, il faut des conditions de pression et de température très particulières qui sur Terre n'existent que par un ensemble très complexe en fait de processus. J'ai parlé par exemple de ce qui s'est passé à l'origine pour que cette eau revienne sur Terre, par cet impact très important. Il n'y aurait pas eu cet impact, on n'aurait jamais eu les conditions qui auraient permis à la Terre de maintenir une eau à l'état liquide. On aurait des conditions de type vénusienne avec une pression tellement élevée que jamais l'eau aurait pu se maintenir à l'état liquide. Ça aurait été de la vapeur comme sur Vénus. Donc effectivement, il y a des conditions très particulières qui font qu'une planète, à un moment donné, peut avoir tous les ingrédients, même si on n'en connaît pas la liste, qui ont fait que sur Terre, il y a plus de 4 milliards d'années, la vie a pu émerger.
Excusez-moi, pour l'instant, on est les gagnants du loto, si je vous comprends bien.
Je ne sais pas si on est gagnant ou perdant, mais je veux dire, toute évolution dépend de ces conditions. On a une évolution qui est l'une parmi des quantités d'autres évolutions possibles. La nôtre a permis à ce qu'on soit aujourd'hui là pour en parler. Je ne dis pas du tout qu'elle était... n'y a pas de hiérarchie là-dedans. Je ne dis pas qu'elle était meilleure ou moins bonne. Et je ne dis pas qu'on a gagné quoi que ce soit. Il y a eu des évolutions divergentes à un moment donné qui tiennent compte des conditions d'origine. Et la nôtre procède d'une succession d'événements extraordinairement... extraordinaires au sens où elles ne sont pas ordinaires, ces évolutions-là. Alors c'est vrai que vous posiez la question par rapport aux exoplanètes. Je crois que ça change beaucoup... la question même de rechercher ailleurs les mêmes choses que sur Terre. C'est extraordinaire ce qui se passe avec la découverte des exoplanètes. C'est-à-dire que l'idée qu'autour des étoiles que l'on voit dans le ciel toutes les nuits, il y ait d'autres planètes est une idée ancienne, bien sûr, parce que depuis qu'on se pose la question de savoir comment notre système est formé, ça fait plusieurs siècles que l'on sait qu'il y avait plusieurs méthodes pour cela, mais... Très vraisemblablement, ce qui conduit à la formation des étoiles conduit à la formation d'un disque tout autour, ce qu'on appelait les nébuleuses, au sein duquel d'autres objets peuvent se construire de plus petite masse que les étoiles, et donc ça devient des planètes. Donc l'existence de planètes autour des étoiles, d'un point de vue théorique, n'a jamais été vraiment, n'est pas une révélation. Cela dit, de l'idée à la découverte, il y a un pas considérable. Et ce qui se passe depuis maintenant une petite quinzaine d'années, c'est qu'on a mis en évidence, effectivement, pour la première fois, mais par des méthodes indirectes, le fait que la plupart des étoiles que l'on voit autour sont effectivement vraisemblablement entourées de planètes. Et on en a mis maintenant des centaines en évidence. Et bien sûr, chaque semaine quasiment maintenant, on en met de nouvelles en évidence. Mais ce qui est très étonnant, c'est que plus on cherche des planètes, plus on en trouve, mais plus on en trouve qui sont extraordinairement différentes de la nôtre. Alors, ça procède d'une part d'un biais expérimental, observationnel, qui fait que les plus faciles à trouver, c'est des planètes très différentes de la nôtre, essentiellement parce que si vous voulez être sûr que c'est une planète, il faut la voir plusieurs fois. Si vous voulez qu'elle la voir plusieurs fois, il faut qu'elle ait une période très courte. Si elle a une période très courte, elle est très proche de son étoile. Et donc, on ne voit par définition que des objets qui sont très proches de leurs étoiles. C'est normal. Mais ce qui est très étonnant, c'est que celles qu'on trouve très proches de leurs étoiles ont des masses comparables quasiment à celles de Jupiter. Mais c'est aussi parce que c'est les plus faciles à détecter. Plus elles sont grosses, plus les effets sur l'étoile sont importants et plus on peut détecter ces effets. Donc il y a peut-être un biais observationnel, peut-être qu'il y a beaucoup de systèmes comme le nôtre, mais peut-être que non, et peut-être qu'en fait, notre système aussi, comme système, est assez spécifique. Mais surtout, ce qu'on est en train de comprendre, c'est que ce qui fait que la Terre est tellement unique ne procède pas simplement de la géométrie ou de la géographie de l'univers, c'est pas simplement la distance entre l'étoile et la planète qui joue. Bien sûr que ça compte, la quantité d'énergie qu'on reçoit du Soleil est importante, mais vous savez bien qu'il n'y avait que cela, l'eau ne serait pas stable à l'état liquide, ce qui fait que notre atmosphère a une petite couche au niveau de la surface qui permet à l'eau d'être liquide n'est pas tellement liée à la distance de la Terre au Soleil, c'est lié à la composition même de notre atmosphère. Or la composition de notre atmosphère est pratiquement déconnectée du fait qu'on ait une planète en orbite autour d'une étoile, qui est le Soleil. C'est lié à plein d'autres choses qui sont des problèmes intrinsèques à notre planète, en particulier le réservoir énergétique qui est la radioactivité, qui elle est la concentration en uranium, en thorium et en potassium qu'il y a au sein même du manteau de notre planète, qui fait l'activité de notre planète, qui recycle des constituants atmosphériques, qui font que finalement on a ni trop peu ni trop de ces constituants pour que l'eau reste à l'état liquide. Eh bien, c'est ça qui est en train de changer considérablement. L'étude de la Terre nous montre que ce qu'on appelle les conditions d'habitabilité sont beaucoup plus diverses et complexes qu'on l'imaginait avant. Et ce qu'il faut rechercher dans d'autres systèmes, ce sont l'ensemble de ces ingrédients-là. Il ne suffit pas simplement d'essayer de trouver des planètes qui ont la bonne taille et la bonne distance à l'étoile, ce qui est déjà probablement un premier paquet, bien sûr, de conditions. C'est très difficile d'imaginer que très loin d'une étoile, l'énergie sera suffisante pour maintenir une température au-dessus du 0 degré pour que l'eau soit stable. Encore que, même très loin, c'était ce qui se passait avec l'observation de Titan. Pourquoi les gens ont pensé qu'à un moment donné, sur Titan, il pourrait y avoir de la vie, et pourquoi les missions Voyager ont été conçues, alors qu'on sait que sur Titan, il y a beaucoup moins d'énergie, il y a 100 fois moins d'énergie qu'on en reçoit de la Terre, il y a 15 watts par mètre carré, donc il faut un effet de serre considérable pour arriver à maintenir de l'eau à l'état liquide. C'était concevable, il se trouve que ça ne s'est pas passé sur Titan parce qu'il y a surtout de l'azote moléculaire qui ne retient pas l'énergie, mais s'il y avait eu beaucoup plus de méthane, ça aurait marché. Bon. Donc, la distance à l'étoile est importante, mais n'est pas à ce point, je dirais, importante. Ce qui est fondamental, c'est plein d'autres ingrédients, et les rechercher ailleurs est encore plus compliqué que ce que l'on pensait, puisque même dans le système solaire, on n'est pas capable actuellement d'identifier sur une planète aussi proche, finalement, que Mars, si oui ou non, il y a eu tous les ingrédients à un moment donné.
Alors, il y a énormément de travail qui reste à faire, Jean-Pierre Bibring. Vous parlez de l'urgence de comprendre la situation pour la Terre, avec la planétologie comparée, de cette nouvelle fenêtre qui s'ouvre sur les exoplanètes. Vous êtes un homme pressé, vous avez travaillé sur Mars, vous êtes actuellement aussi en train de suivre une petite sonde qui s'appelle Rosetta, qui fonce vers une comète qu'elle atteindra en 2014. Qu'est-ce que aujourd'hui, je dirais, l'exploration du système solaire peut nous apporter, justement, quand vous dites on est pressé, à la Terre, pour encore peut-être mieux comprendre notre situation. Et je dirais, quel est le travail quelle est la mission du chercheur telle que vous la voyez aujourd'hui en allant explorer d'autres mondes, finalement, alors que la Terre est au centre de nos préoccupations?
D'une part, je suis pas sûr qu'il y ait des missions, au sens où on n'est certainement pas des missionnaires, et je ne pense pas surtout qu'il y ait de réponse unique à une question comme ça. Je dis pas du tout que la question est plus que pertinente, mais je crois pas qu'il y ait de réponse unique à ce genre de choses. Chaque chercheur, il met et il voit les raisons de ses choix dans... C'est vrai que dans le domaine dans lequel on est, qui est la compréhension de ce que sont les planètes, il y a une consonance très particulière, puisque l'essentiel de notre travail, c'est d'essayer de mieux comprendre en fait la spécificité de notre propre monde. Donc il y a une résonance avec la Terre, bien sûr, avec la compréhension de l'histoire et de la géographie de la Terre. Je crois que ce qui se passe depuis quelques dizaines d'années, qui change fondamentalement l'idée que l'on se fait de l'évolution déjà, et de l'évolution de l'univers à toutes ses échelles, le fait qu'on soit effectivement le produit d'une évolution réellement cosmique, que l'homme plonge ses racines dans l'évolution de l'univers, qu'on commence à comprendre ce qui a fait la richesse de cette évolution du point de vue de l'apparition de systèmes planétaires, et que l'on commence à comprendre l'ensemble des processus qui ont conduit à ce que la Terre apparaisse, que la Terre évolue, et que sur la Terre, le vivant émerge et évolue, et ce qui fait la complexité et la rareté des processus en cause, fait qu'effectivement ça donne une idée très particulière de ce qui se passe actuellement. Et ce qui est étonnant et tout à fait passionnant dans les moments que l'on vit, c'est qu'avec à peu près les mêmes techniques finalement, l'homme se donne les moyens de comprendre sa place dans l'évolution, à la fois à nouveau dans l'histoire et dans la géographie, notre place dans l'univers à un moment donné, mais se donne aussi les moyens de modifier à ce point les conditions de notre environnement que pour la première fois on peut agir sur notre propre destin. Et toutes les portes sont ouvertes par rapport à ça. Il ne faut pas être catastrophiste en disant qu'il n'y a pas de solution et que l'homme va disparaître à la fin de ce siècle, mais il ne faut pas non plus, il faut avoir la lucidité aussi de se rendre compte qu'il n'y a rien d'écrit dans le grand livre qui consisterait à dire la nature s'en sortira, tout système va finalement se réguler, ça va marcher. Non, il peut tout à fait y avoir des systèmes d'évolution divergentes qui font que, par exemple, Vénus, à un moment donné, a vu son atmosphère évoluer au point que non seulement l'eau a disparu de la surface, mais même du sous-sol, elle a disparu dans l'atmosphère, elle a même dissocié. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'effet de serre de Vénus a fait qu'il n'y a plus de chemin de retour possible. Il ne pourra plus jamais y avoir à la surface de Vénus de conditions capables de maintenir de l'eau à l'état liquide à la surface, tout simplement parce que l'eau a disparu de cette planète.
Mais l'homme pourrait être suffisamment, entre guillemets, puissant, ou je ne sais pas, en tout cas, un moteur qui fasse qu'à un moment donné, il y ait une vraie bascule.
Oui, parce que, à nouveau, je ne dis pas que ça va se passer, mais les conditions peuvent exister parce que, je vais prendre un ou deux exemples simplement. Une grande partie des conditions atmosphériques actuellement dépend de la concentration en gaz carbonique dans notre atmosphère. Cette concentration en gaz carbonique est extrêmement faible. Il ne faut pas penser qu'il y a que les constituants majeurs, abondants, qui jouent. Quelquefois, un constituant mineur à l'état de trace peut avoir un effet considérable. C'est ce qui se passe avec le gaz carbonique. Il y a très peu de gaz carbonique dans notre atmosphère, à nouveau pour des raisons liées à notre propre histoire planétaire. Eh bien, l'homme, par son activité aujourd'hui, en fabriquant du gaz carbonique sans le vouloir, simplement parce que 80% de l'énergie que l'on produit pour notre survie est produite par de la combustion, et cette combustion produit certes de l'énergie, mais en fait en très faible proportion par rapport à la concentration de ce qu'on met dans les réactions, ce qui fait qu'on produit beaucoup de gaz carbonique aussi en même temps. Eh bien, la concentration de gaz carbonique qu'on met dans l'atmosphère aujourd'hui devient de l'ordre, du même ordre de grandeur que ce que la nature globalement, le système global de la Terre y avait mis. On est en train peut-être de doubler, voire de tripler la concentration de gaz carbonique. Personne aujourd'hui ne peut dire si un système comme la Terre est capable d'absorber une telle élévation de la concentration de gaz carbonique par le fait que cette augmentation se passe extrêmement vite. Si ça se passait sur des milliers d'années, j'ai pas d'inquiétude sur le fait que le système va peu ou prou s'adapter à cela. Une évolution trop rapide peut aboutir à une incapacité de rétroaction positive, comme on dit. Donc oui, effectivement, il peut y avoir divergence des conditions, et les conditions de notre environnement peuvent faire que l'homme tel qu'il est aujourd'hui ne pourra pas nécessairement voir son adaptation une réalité.
Alors vous concluez ce livre, hein, Mars, planète bleue, avec un point d'interrogation, et il a son importance, par une petite réflexion sur la démarche scientifique. Vous dites, on la décrit souvent comme la construction d'un puzzle dont chaque découverte constituerait une pièce. Cette image est inexacte. Le puzzle de la connaissance n'a pas de cadre, ni de nombre de pièces limitées, qui ferait un jour qu'il serait achevé. Les dimensions du puzzle augmente alors qu'il se remplit. Donc de la recherche pour l'infini ?
Ah, de la recherche pour l'infini, c'est absolument sûr, et surtout de la curiosité pour le cerveau humain pour l'infini, c'est sûr. C'est pas une petite question, cette question-là. Cette idée que plus on en apprend, plus le champ de l'ignorance augmente. Il faut se convaincre que c'est bien d'en apprendre plus, c'est-à-dire qu'effectivement, on progresse dans l'appréhension de ce qui fait à nouveau le monde dans lequel on évolue. Mais que ce n'est pas pour autant que cette connaissance va aboutir à une fin. Ce qui veut dire qu'il faut que le cerveau humain s'habitue à vivre avec plus de questions que de réponses. Et qu'il ne faut pas toujours chercher, dans l'irrationnel en particulier, une solution si ce n'est pas pertinent, au sens où si on ne peut pas le vérifier. C'est une vraie question. C'est-à-dire que je pense que plus on avance, par exemple, sur les questions du vivant, plus se posent de vraies questions. Mais il faut arriver à se poser ces questions d'une manière telle qu'on puisse envisager de les confronter à une réalité. C'est-à-dire qu'il faut faire des prédictions observationnelles et avoir une véritable, ce qu'on appelle, démarche scientifique, c'est-à-dire de plus on en sait, plus on peut comprendre dans notre système, plus on va se dire, si c'est comme ça, eh bien on devrait voir telle ou telle chose, mettre ces théories en regard de prédictions observationnelles et les confronter réellement à des mesures, et c'est ça qui nous permettra d'avancer. Et on n'avance qu'avec une telle démarche. Si vous proposez une solution qui n'est pas vérifiable, par une démarche qu'on appelle irrationnelle, alors je pense qu'on va à une butée dans l'évolution du cerveau humain.
Merci Jean-Pierre. Votre ouvrage s'appelle Mars, planète bleue, avec un point d'interrogation. Il est préfacé par Hubert Reeves, édité chez Odile Jacob. Merci d'être venu nous en parler. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment pour un prochain épisode.
Merci beaucoup.